Champagne, bonjour. Nous sommes en Lozère cette semaine et comme cela nous arrive régulièrement, on commence par un coup de pouce qui concerne la difficulté à trouver des repreneurs d'exploitation agricole dans un territoire hyper rural. En l'occurrence, Christian et Michel sont en GAEC à Lannuéjol, au pied du mont Lozère, dans un cadre magnifique. C'est ce qu'ils nous écrivent. Dans une vallée verdoyante, on les croit, près de Mende. Nos deux éleveurs, dont la ferme est en cycle de reconversion bio, vont prochainement prendre leur retraite. Ils recherchent un ou des repreneurs de cette ferme qui compte quelques 250 ovins, une soixantaine de bovins. Leur contact, c'est une adresse électronique que vous trouvez à nos pages d'émission. Il y a ici comme ailleurs les partants et les arrivants. Jimmy est en Lozère depuis 6 ans. Sa venue était conditionnée par une mission à durée limitée, mais il a choisi de demeurer dans ce département pour une activité qui sort de l'ordinaire, comme vous allez le comprendre. Nombreuses sont les personnes aussi à choisir un bout de campagne pour se lancer dans une nouvelle activité. Les exemples ne manquent pas, ils vous seront donnés tout à l'heure en seconde partie depuis le village, le magazine Village, pardon, avec Sylvie Le Calvez, sa directrice de publication.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jimmy Grandadan, bonjour.
Bonjour.
Jimmy, un vrai cordonnier, vous êtes de plus en plus rare, à moins que je me trompe et que le métier revienne au goût du jour.
C'est vrai que c'est un métier qui a du mal à se renouveler parce qu'effectivement, il y a peu de personnes qui veulent reprendre. Et pourtant, je fais partie, on va dire, d'une nouvelle génération qui essaye aussi un peu de réinventer le métier. Non pas dans le travail traditionnel de rénovation des chaussures, mais plutôt en y apportant des métiers annexes, ou du moins des développements annexes.
Par exemple, parce que vous êtes cordonnier, maroquinier, vous travaillez d'abord sur le cuir. Qu'est-ce que vous apportez en annexe du métier de réparation ?
En annexe du métier de réparation, c'est la création. Et donc, c'est les objets en cuir que je crée. L'idée est d'avoir sur un même territoire un service pour répondre aux besoins des gens, de faire durer les objets qu'ils ont déjà en leur possession, ou de leur apporter la possibilité d'acquérir des objets en cuir, donc ceinture, sac, pochette, étui, ou même tout ce qu'ils ont envie de faire, et là, dans un but de leur offrir un objet durable et qu'ils vont pouvoir garder dans le temps.
Votre histoire, Jimmy, est pas banale, parce que vous arrivez il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans, en Lozère, et vous étiez venu pour une mission faune dans le département, et vous avez eu un coup de cœur, vous y êtes resté.
Exactement, oui. Je travaillais avant dans la protection de la nature, et notamment dans les parcs nationaux. Et donc, j'ai atterri au siège du parc national des Cévennes à Florac.
Oui.
Et une fois que mon contrat n'a pu être renouvelé, le questionnement était de dire, plutôt que de faire comme d'habitude et de changer de département et de trouver de nouvelles missions dans d'autres parcs nationaux ailleurs, cette fois-ci, on fait le pari inverse. On reste là où on est et on change de métier. Et j'avoue que c'est le territoire qui a incité. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cas de personnes qui se renouvellent et qui font des reconversions comme ça, qui partent souvent d'un métier qui a rien à voir avec celui qui crée. Ça m'a incité à me dire, si d'autres peuvent le faire, moi aussi. Partant d'une passion pour la matière du cuir, je me suis dit que c'est vers ça que je voulais m'orienter.
Et vous vous êtes formé sur le tas ?
Exactement. Donc j'ai trouvé un système, notamment à travers les compagnons du devoir, qui avaient un souci d'effectif. Mmh. On parlait justement de renouvellement des cordonniers. Et donc ils n'ont pas réussi à compléter une formation, mais ils m'ont gardé mon statut de stagiaire. Et avec ça, j'ai pu faire plusieurs stages pratiques, au final, pendant 1 an et demi. Et cela, soit chez des maroquiniers ou maroquinières, soit chez des cordonniers.
Jimmy, on parle de plus en plus d'obsolescence programmée. C'est valable pour la chaussure en cuir ?
Pour la chaussure en cuir, non. L'idée que plus la chaussure effectivement sera composée de cuir, plus elle sera durable et réparable. C'est une matière qui, au final, on n'a pas exactement l'idée en tête qu'elle peut être renouvelée et renouvelée. Mmh. Une couche de cuir, ça s'en va très bien d'une chaussure, comme ça peut se remettre. On va dire les chaussures les plus durables, qui sont faites toutes en cuir, sont quasi, alors je dirais pas infinies, mais ont une longue durée de vie. Là, en ouvrant, j'ai eu l'occasion, dès que j'ai ouvert ma boutique, de voir apparaître des chaussures qui avaient 30, 40 ans, qui étaient entretenues, donc nourries. C'est ça la particularité la plus importante pour le cuir, c'est qu'il faut le nourrir. Mmh. Il ne faut pas qu'il sèche, il ne faut pas qu'il craquelle. Et une fois qu'il est bien entretenu, il peut durer des années.
Est-ce qu'il y a une filière cuir locale ?
En fait, il y a souvent un intermédiaire entre les peaux qui sont considérées comme des déchets au niveau de l'abattoir et les tanneries. Moi, j'ai la chance, notamment avec des amis qui ont un troupeau, qui sont bergers, ils ont réussi à remettre en place une petite filière. Alors, ça ne concerne pas tous les cuirs, mais en ce qui concerne les peaux de moutons, ils ont réussi à vraiment recréer une filière à travers donc les moutons qu'ils gèrent, un abattoir dans lequel il y a un travail coopératif avec tous les éleveurs, une tannerie qu'ils ont trouvée qui voulait bien leur tanner juste leur peau. Et là, moi, arrive à l'atelier les peaux donc des personnes que je connais qui ont été traitées dans les meilleures conditions sous les prairies cévenoles.
Je vous conseille d'aller voir le site de la maison de Jimmy, maison-grandadam.fr, parce que on sent déjà sur le site l'odeur de cuir. Il est vraiment bien fait. Et puis, alors, je signale que Grand Adam, c'est pas une marque, c'est véritablement votre nom, mais qui sonne comme une marque. Peut-être que ça deviendra une marque de fabrique.
Je l'espère. Le but est que ça devienne une enseigne, au moins à minima ici, connue localement et le plus largement possible.
Voilà, une surprenante reconversion professionnelle, la maison Grand Adam, 31 avenue Jean Monestier à Florac. Merci Jimmy.
Merci énormément Philippe.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Ça tombe bien parce que dans quelques instants, à l'image de Jimmy, on va parler de personnes qui sont lancées dans des activités en milieu rural, parfois par reconversion. Mais avant cela, je rappelle que la semaine prochaine, nous serons dans le Pas-de-Calais, suivrons le Nord, Lyon, au mois de février, la Nièvre, le Cher, je maintiens le Cher, on prend toujours de vos nouvelles parce qu'on en manque un tout petit peu. Et puis ensuite, nous serons en Normandie, dans la Manche et l'Orne. La Normandie, on y reste d'ailleurs avec Sylvie Le Calvez. Bonjour Sylvie.
Bonjour Philippe.
Sylvie en duplex des studios de France Bleu Normandie Caen, directrice de publication du magazine Village, le dernier numéro à retrouver pour les grands titres sur le site villagemagazine.fr. On va s'intéresser à une série de portraits que vous publiez dans chaque numéro. Il y a un certain qui m'enthousiasme, alors qui fonctionne très bien. Je tiens à le dire, n'est pas dans du petit artisanat. Je prends l'exemple de David qui fait du tofu 100% français en Gironde. Le tofu, c'est un fromage de soja. Il a créé son entreprise Loca Delis. Et je vois que sa production a été multipliée par 10 en 5 ans.
Oui, c'est incroyable. Hein. C'est une belle réussite. Il avait effectivement commencé assez petit. Et d'un seul coup, il va passer de 3 à 6 salariés. Et on voit que quand on fait confiance à des porteurs de projets comme ça, il peut y avoir des retombées sur les territoires importantes. Sur un village, passer à 6 salariés dans une petite entreprise artisanale, c'est pas rien. Alors David, il avait un double master d'économie sociale et solidaire. Et puis finalement, il a mis les mains directement dans la fabrication de ce produit en cultivant des plantes de la région avec bien sûr du soja mais du piment d'Espelette, de l'ail des ours, et effectivement il sait très bien choisir les bons produits puisque ce qui fait le succès, parce que c'est tout en discrétion hein, son entreprise Loca Delis, c'est la qualité du produit.
Ouais, il envoie maintenant des palettes entières à des enseignes nationales comme Grand Frais ou Biocoop à raison de 300 kilos de production jour.
C'est pareil. C'est une belle réussite.
Et grâce à vous, nous allons aux Antilles, à Saint-Joseph, à la Martinique, avec Séverine et Rémi, qui eux se sont lancés dans la production de plantes médicinales créoles.
Oui, Séverine était salariée dans les cosmétiques, elle trouvait que ça avait pas de sens, c'était beaucoup de produits chimiques. Et quand elle a rencontré son compagnon, ils ont ensemble, qui lui était plutôt dans le maraîchage.
Ingénieurs, tous les deux quand même.
Tous les deux ingénieurs, accompagnés par un docteur en pharmacie aussi, pour leur projet de plantes médicinales, aromatiques, de tisanes, pour d'abord une production locale et pourquoi pas demain l'exportation, en tout cas sur des plantes assez spécifiques. Hein, ils font même de la gélule, mais sont adaptés au marché d'aujourd'hui. Ils espèrent exporter bientôt, mais pour l'instant, c'est toujours en recherche, puisque c'est assez long à mettre en œuvre pour avoir la vitesse de croisière.
D'accord. Et je tiens à souligner qu'il y a quand même une particularité, c'est que le voisinage est très actif aussi. Alors ça, c'est un principe antillais qu'on appelle le coup de main. Alors c'est écrit K.O. UDMEN, coup de main, et là ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité presque naturelle.
C'est vrai. Et il y a une petite chose aussi à signaler, c'est quand même il aura fallu 5 ans pour trouver le bon terrain, parce que il faut quand même savoir que là-bas on cultive beaucoup de bananes et qu'il y a un pesticide, hein, la chlordécone, qui est très 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 toxique. Et eux, ils voulaient cultiver de façon la plus biologique possible. Et donc il a fallu qu'ils trouvent 5 ans avant de trouver le terrain adapté et non pollué.
Chlordécone même... dans les bananeraies qui porte bien son nom. On se prend l'exemple de Sandrine. Encore un exemple de réussite avec sa ferme d'animaux lainiers. Et surtout la particularité, sa ferme du trèfle rouge se trouve en périphérie de Montauban, donc on est en zone complètement périurbaine.
Une zone de à peu près 61 000 habitants. Elle a quitté son poste dans l'administration. Elle avait une passion à la fois pour le textile et pour les animaux. Et elle s'est dit, je vais faire finalement de la laine, mais de la laine produite moi-même sur place. Elle a commencé par des chèvres et après, elle a acheté des alpagas.
Ouais.
On va dire, c'est pas tout à fait l'animal local. Hein.
Non.
Par contre, il produit beaucoup de laine et puis c'est en zone périurbaine comme ça, c'est intéressant. Donc les deux premiers, puis financement participatif, là encore. Et maintenant, ils ont 8 brebis, 9 lapins angora, 12 chèvres, 8 alpagas. Mmh. Pour l'instant, ils sont obligés d'avoir encore des activités complémentaires aussi à côté. Mais là, les premiers produits devraient être transformés cette année. On leur souhaite bonne chance.
Mmh. Et je voudrais saluer John. John était employé au ministère de l'Environnement en Belgique. Il est devenu artisan légumier en Puranie, en Ardèche. Il fabrique des tartinades qu'il vend dans une centaine de magasins bio. Son chiffre d'affaires croît de 50% chaque année.
Oui, là aussi, c'est un bel exemple. Être passé de conseiller au ministère du Développement Durable à Bruxelles pour faire des pâtés végétaux en commençant dans sa cacotte minute et avec les copains qui disent « Ah, c'est bien, ça c'est super, tu devrais en faire plus » et finir par investir plusieurs milliers d'euros grâce à un prêt familial et ses indemnités de licenciement et réussir aujourd'hui son activité parce qu'aujourd'hui, il en vit. Il va même sûrement très prochainement embaucher. Il dit « Si ça marche, c'est aussi parce qu'à la campagne, la valeur travail est importante et on voit mon magasin ouvert de tôt le matin, tard le soir, et ça a mis les habitants en confiance. Ils travaillent qu'avec des producteurs locaux aussi, et ça permet de valoriser une production locale sans que la valeur ajoutée s'en aille sur d'autres territoires. Donc c'est là aussi un bel exemple.
Voilà des exemples de portraits donnés dans le dernier numéro du magazine Village, villagemagazine.fr. Merci Sylvie.
Merci Philippe, à bientôt.
Demain, on vous présentera un programme pionnier en France de téléaudiologie, programme de dépistage auditif par téléassistance conduit depuis le CHU de Montpellier. Puis on ira à Marvejols pour visiter le café culturel associatif, le Sillon Lozé.